cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Benjamin Allard.
Bonjour.
Alors vous publiez pour le label Alpha un nouvel album, disponible sur Cobuzz d'ailleurs, de sonates en trio de Bach que vous avez enregistré sur l'orgue aubertin de l'église Saint-Louis-en-Lille. Vous nous parlerez sur cet album également de cet orgue et de ce lieu peut-être. Également, votre actualité, c'est pour son domaine privé à la Cité de la Musique, un certain Gustave Léonard vous invite. Samedi 19 à 17h, je crois que vous allez interpréter au clavecin virginal des œuvres de Purcell, je crois, et de ses contemporains, William Byrd notamment. Alors, peut-être avant de parler de tout ça, sans non plus tomber dans un trop vaste Il était une fois Benjamin Allard, racontez-nous un peu votre rencontre avec la musique. Je rappellerai juste quand même que vous n'avez que 24 ans, donc on va dire que la saga ne va pas durer. Mais quels sont, est-ce que vous êtes issu d'une famille de musiciens? Comment le contact avec la musique s'est fait à l'épisode 1, on va dire?
Alors mes parents ne sont absolument pas musiciens, mais j'étais très agité étant petit. Et ma mère m'a fait faire du piano, très jeune. Et ensuite j'ai commencé l'orgue avec un curé de paroisse, parce que j'aimais beaucoup ça. Et ensuite j'étais vraiment passionné par l'orgue ancien, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, parce que là où je vivais, à côté de Dieppe, il y avait un orgue du 18e siècle. Et donc c'est ça qui a, je pense, motivé cette passion. À l'époque, il y avait un festival de musique ancienne à Dieppe aussi, où on pouvait entendre déjà à l'époque des gens comme Léonard, Jordi Savall, des gens très connus, aussi des gens moins connus, mais tout aussi intéressants. Donc c'est ça qui, je pense, a motivé tout ça. Finalement, je trouve assez sain de pas avoir des musiciens dans une famille, puisqu'on n'est pas jugé, on n'est pas.
Pas d'héritage à porter.
Voilà, il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes de confiance qu'il faut gagner des parents, puisque en général, pour des parents lambda, la musique n'est pas un métier, donc c'est difficile de convaincre, si je puis dire, les parents.
C'est pour les saltimbanques, un peu.
à payer des études à l'étranger. Dans mon cas, j'ai fait des études en Suisse. Donc, à payer des études assez coûteuses à l'étranger pour un métier, on n'est pas sûr, où il n'y a pas forcément d'avenir. Donc, mes parents étaient assez contents que ça fonctionne. Mais c'est vrai que souvent, c'est pas le cas pour tout le monde de pouvoir faire des concerts et de réussir dans la musique. Et ça dépend. Mais en tout cas, je suis très heureux et c'est une grande chance. Que mes parents m'aient laissé et m'aient fait confiance.
Cette fascination, vous avez parlé pour l'orgue au début, est-ce que c'était l'originalité, enfin le côté atypique de l'instrument, c'était sa sonorité, c'était le lieu en général dans lequel on le trouve, qui est quand même pas partout, donc c'est souvent lié à... Je parle vraiment au tout début, quoi, c'est-à-dire le...
Je pense que c'est dû au lieu, en partie, au côté un peu mystique, mystérieux d'une église, cet instrument où on voit pas le musicien, l'organiste, qui est toujours caché, quasiment, où le son vient de nulle part, il y a des tuyaux en façade sur un orgue, mais on ne sait pas exactement d'où vient le son, il y a énormément de mélanges possibles de sons différents. C'est ça qui m'a attiré, plutôt que le piano, que j'ai laissé tomber par la suite. Mais voilà. Et ensuite le clavecin, je pense grâce à cause de toute cette musique ancienne, et le clavecin j'ai commencé un petit peu tout seul, et après j'ai décidé de l'étudier plus profondément.
Est-ce que... Quand vous êtes passé, vous avez dit que vous êtes intéressé ensuite au clavecin, est-ce que c'était par une autre attirance ou c'était parce que quelque chose vous manquait dans l'orgue? Est-ce qu'il y a, enfin peut-être pas parler de schizophrénie dans les deux, puisque les deux instruments sont vraiment différents, mais est-ce que c'est aussi peut-être pour remonter une période où les instrumentistes parfois ne se limitaient pas à un seul instrument? Comment vous, au début, je parle toujours, on reste toujours dans cette période-là, peut-être on parlera après aujourd'hui, mais au début, comment vous gériez un peu cette dualité? Enfin, si on peut parler de dualité d'ailleurs.
Alors au départ, j'ai fait de l'orgue, j'ai étudié l'orgue, je suis allé au conservatoire de Rouen, et il y avait un clavecin qui était dans une salle, qui était la salle de flûte à bec à Rouen, et il n'y avait pas de classe de clavecin à Rouen, donc j'en ai joué un peu seul. J'aimais beaucoup ce son. J'ai entendu très jeune Gustave Léonard au festival de Dieppe, au festival d'Arc la Bataille qui s'est fondé il y a 12 ans. Et j'avais pas toutes les clés pour comprendre ce que faisait Leonard, parce que j'étais bien jeune, mais j'étais passionné par ce son, et j'avais envie de un peu de me mettre dans la peau des musiciens de l'époque qui jouaient un peu différentes choses, qui jouaient à la fois l'orgue, le clavecin, et le milieu, je dirais, des organistes ne m'attirait pas spécialement. C'est-à-dire que les organistes, souvent, c'est des gens qui sont tout seuls dans leur tribune.
Une austérité un peu liée au...
voilà, qui ont un clan à eux-mêmes, qui détestent tout le monde. Le milieu de l'orgue est assez spécial.
J'ai voulu pacifier tout ça un peu.
Voilà, j'ai voulu un peu m'écarter de ça, et aujourd'hui j'en suis très content parce que, évidemment, j'ai quelques amis organistes que j'aime beaucoup, mais je n'estime pas que je suis dans le milieu de l'orgue classique, si on veut dire, avec ces grandes symphonies de Vierne Vidor, tout ce répertoire chauve-souris que j'appelle, tout ce répertoire 19e, un peu, c'est pas trop mon truc. Donc, je pense que c'est plutôt par passion pour la musique. Quand je jouais du Couperin à l'orgue, j'avais envie de voir ce que Couperin avait écrit pour clavecin. Même chose pour Bach. Et pour moi, c'était toujours quelque chose. Mais l'opportunité vient aussi du fait qu'à Dieppe, il y avait un département de musique ancienne assez important. Il y avait du clavecin, il y avait beaucoup de concerts, il y avait des choses. Et quand on baigne dans une atmosphère, de festival avec des gens qui viennent jouer de cette musique et qu'on aime ça joue beaucoup aussi, je pense.
Est-ce que, pour parler plus de rapport physique, j'allais dire charnel avec l'instrument, comment vous viviez les deux, sachant qu'il y a peut-être un rapport plus physique, on va dire, avec le clavecin, ou vraiment comment se passaient ces deux corps à corps, j'allais dire?
C'est-à-dire, j'ai étudié l'orgue et le clavecin, j'ai commencé à l'étudier très tard. Donc, je jouais du clavecin tout seul, je faisais un peu de basse continue, mais je l'ai étudié vraiment à l'âge de 15 ans, assez tard, le clavecin. Donc, mais les deux ont un rapport assez différent, puisqu'au clavecin, il faut vraiment faire le son, puisque le bec doit être actionné par un sautereau qui pince la corde et la vivacité du doigt est très importante. Et là, il faut jouer sur l'attaque, sur la durée, sur la résonance. Et en général, même avec un mauvais clavecin, on peut arriver à faire un son assez correct.
Avec un mauvais orgue, si l'orgue est...
Avec un mauvais orgue, c'est plus difficile, parce que l'orgue, il y a toute une mécanique qui permet un son. Et on peut jouer un peu sur l'attaque, on peut jouer sur la durée, on peut jouer sur le vent, sur un peu le quelques paramètres, mais c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un beau son, et ça dépend beaucoup plus d'un lieu, c'est d'une acoustique.
Dire,
donc le rapport physique est plus avec un lieu qu'avec un instrument. Bien sûr, on a forcément un rapport physique, mais disons que un orgue, il faut bien le traiter, et puis en général, il sonne bien. Un clavecin, il faut faire beaucoup plus.
Qu'est-ce que vous gardez un peu de toutes ces années d'apprentissage conservatoire, qui sont... pas si longtemps finalement, mais avec le recul, ça a été des années intenses, difficiles, puis toutes les rencontres liées, les personnalités que vous avez rencontrées, je ne sais pas que ce soit Elisabeth Joyer pour le clavecin, etc. Comment vous, rétrospectivement, vous regardez un peu toute cette partie de votre vie?
Je remercie beaucoup mes professeurs qui m'ont appris énormément, notamment Elisabeth Joyer, Louis Thierry, professeur d'orgue, à Bâle, les gens comme Andreas Botticher, Marcon, etc., et Jean-Claude Zender. Je dirais que souvent, c'est un chemin qu'on fait pendant une période avec eux, et puis on essaie de se remettre en question à chaque fois, et puis d'assimiler soi-même ce qu'on a appris. Ça, c'est assez difficile. Puis arriver à la fin des études, il faut se débrouiller tout seul, donc on peut avoir quelques oreilles, on peut avoir... Mais rétrospectivement, je peux dire qu'on ne peut pas non plus tout attendre des professeurs. Il faut se souvenir de la formation qu'on a eue, mais il faut être assez tôt indépendant. Et puis,
désapprendre un peu, d'une certaine manière, toujours. Un peu. Enfin, désapprendre, pas au sens propre, mais...
Oui, apprendre à apprendre seul, si on veut.
Pour vous, ça a été... Des choses vous ont aidé, parce que c'est vraiment une force intérieure qu'on doit trouver.
Je pense que ce qui aide vraiment, c'est de beaucoup jouer. Plus on joue de concerts, plus on joue avec des gens, plus on joue avec des ensembles, plus on acquiert une certaine liberté. Et il y a des périodes où on joue moins et ça s'évade un peu, donc il faut toujours être en constante recherche, remise en question, quelque chose qu'on a joué d'une manière, d'une telle manière un jour ou un mois donné ou 2 ans avant, on aura une totale vision assez différente 2 ans après. Ça dépend vraiment des périodes. Et les bons professeurs sont les professeurs qui peuvent guider l'élève dans quelque chose, qui peuvent guider l'élève dans ce qu'il veut et dans sa voie. Donc souvent, un bon professeur pour moi n'impose pas une vision, mais guide l'élève dans ce qu'il a envie de faire. Un peu comme un médecin qui soigne un patient. Pour moi, c'est un peu ça.
Oui, le but, c'est pas que de répondre à vos questions, c'est plutôt que vous arriviez tout seul à trouver les questions, finalement.
Un peu, oui. Pour moi, c'est très important qu'un prof ne dicte pas, soit pas en train de dire à l'élève de faire ci, de ça, de telle manière, de jouer telle œuvre à tel tempo. Non, il faut que l'élève trouve sa voix. Et c'est ce qui fera sa force plus tard, je pense. Puisque les gens qui jouent trop de manière stéréotypée et qui ont trop une idée d'après leur professeur et qui ont du mal à s'en détacher, je trouve ça dommage, parce que quelque chose manque. C'est pas eux, finalement.
Est-ce qu'il y a des personnalités, des professeurs, ou même des personnalités qui, durant cette période, vous ont justement aidé à être vous-même, ont réussi sans imposer justement leur aura ou leur... plus que d'autres, est-ce qu'il y en a certains qui vous...
Oui, il y a par exemple Jean-Claude Zender, et Elisabeth Joyer m'a beaucoup aidé. Jean-Claude Zender aussi à l'orgue m'a beaucoup aidé. Mais le travail se fait surtout à la fin des études, quand on commence à développer seul un répertoire. Parce que pendant les études, on travaille beaucoup de répertoire. Mais je pense notamment aux séries de concerts que j'ai eu la chance de faire à Saint-Louis-en-Lille les dimanches midi. C'est des séries de concerts avec des programmes assez lourds que j'ai dû préparer assez rapidement. Et c'était une expérience formidable, parce que c'était des œuvres que je connaissais pour la plupart d'oreilles. Mais j'ai essayé de me vider la tête de tous les a priori que j'avais eus durant mes études, de tous les enregistrements qu'on peut entendre.
Est-ce que je vais vous demander tout cet aspect-là, parce qu'après je voulais aussi vous demander un peu quel rôle les disques ont joué dans votre éducation musicale. On parle pour l'instant des personnalités. Justement, ce côté effacer un peu presque son disque dur personnel tout, pour ensuite arriver avec cette sorte de virginité face à la partition. Est-ce que c'est un travail qui... de longue haleine, comment on...
C'est un travail assez difficile, parce que quand on est baigné au 20e siècle et 21e siècle dans un monde avec beaucoup de... un monde très sonore, aujourd'hui on a de la musique partout, il y a Internet, il y a des enregistrements, tout le monde...
Et même sur informé, c'est-à-dire des versions...
Oui, tout le monde a un appareil à CD chez soi, donc c'est très difficile d'essayer d'avoir un regard neuf sur le texte. Et de ne pas être influencé par qui que ce soit, c'est extrêmement difficile. Je pense que le temps fait ça. Des œuvres qu'on a eues dans la tête et qu'on n'a pas jouées pendant... ça m'est arrivé par exemple de travailler une œuvre pendant mes études, de Bach à l'orgue, et de ne pas la jouer pendant presque 2 ans, et de la reprendre à zéro ensuite. Je me suis dit que ce que je faisais avant était complètement absurde. Mais... C'est très dur d'avoir un regard neuf, de pas... Mais c'est pas seulement une question de travail, c'est une question aussi de... C'est important de prendre des moments où on travaille pas, où on se...
On laisse reposer les choses.
On laisse reposer, on se fait plaisir d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va découvrir des arts parallèles de la même époque, on va lire des choses qui sont en liaison avec ça, on va étudier un peu... le contexte politique de l'époque, on va essayer de se cultiver, de se promener. Et ça va jouer aussi, puisque en général, pour moi, un musicien travaille tout le temps dans sa tête. S'il a de la musique, il est tout le temps en train d'imaginer quelque chose. Mais le fait, la fraîcheur et ce qu'on peut apporter en fraîcheur, ça vient aussi du fait qu'on n'est pas constamment en train de travailler et qu'on n'est pas en train de se bourrer le crâne toujours avec des choses, et on n'est pas toujours en train de chercher. On est en constante remise en question, on se pose des questions, on a des interrogations, mais il faut parfois
vivre.
Vivre et puis être être aussi très libre avec la musique.
Et c'est quelque chose que vous avez... vous étiez conscient de ça assez jeune, ou c'est venu progressivement, c'est récent, comment ça...
C'est très récent. Mmh. Je pense que ça a à peine un an. C'est très très récent.
C'est lié à quoi? À la visibilité que, médiatiquement que vous avez eue? C'est lié à des rencontres? C'est lié juste peut-être à un travail, pas quelque chose de personnel?
Je pense que quelque chose de tout bête, je lis un peu plus qu'avant. Je culpabilise aussi un peu moins qu'avant sur le travail que je fais pas. Avant, aujourd'hui, oui, il faut travailler. Alors, on se lève très tôt, on travaille. Bon, il y a des jours où je travaille pas. Je suis pas complètement malade de travail. Bien sûr, il faut travailler. Et c'est pendant qu'on est jeune qu'il faut développer le maximum de répertoire, puisqu'après, on a de moins en moins de temps. Mais ce côté de plaisir de la vie est très important, je pense. Aussi, je le sens aussi chez des gens comme Gustav Leonhardt, par exemple, qui est quelqu'un, il le dit lui-même, qui consacre la moitié de son temps à la musique. Le reste, il le dit lui-même, il le consacre à l'art en général. Donc, et bien sûr, c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime beaucoup se promener, qui aime beaucoup les voitures de sport. Voilà. Donc il a, et c'est très important de pas être complètement enfermé. Voilà, je pense.
Justement, les disques, quel rôle ils ont joué, la musique des autres enregistrée dans votre éducation musicale? Est-ce que, très jeune, dès que vous êtes intéressé à l'art, vous étudiez, est-ce que vous achetiez des disques? Est-ce que vous les écoutiez ou pas du tout? Vous restiez vraiment... Votre rapport avec la musique était lié uniquement à vos professeurs, à l'instrument, à la partition, et c'est tout?
Non, j'ai acheté des disques, mais j'ai eu des disques, mais assez tard, parce que c'était assez rare même à l'époque, mais chez mes parents, il n'y avait pas de lecteur CD. Et c'est venu assez tard, je crois que pour mes 10 ou 12 ans, j'ai acheté un lecteur. Donc j'ai eu
Votre premier disque, c'était quoi, votre premier CD, vous vous souvenez?
Les premiers CD, c'était mes cousins qui m'ont offert, c'est complètement, oui, pour ma communion, ça s'appelle la profession de foi, voilà, quand j'avais 12 ans, mes cousins qui m'ont offert une série de, enfin une série de CD très bien choisis d'ailleurs. Il y avait des concertos pour clavecin de Bach par Pierre Antaille, il y avait des concertos pour violon, une vieille version de Menuhin, je crois. Il y avait des symphonies de Dvorak, il y avait du Schumann. Et ces disques, ils m'ont accompagné assez, assez longtemps. Après, un des premiers disques aussi qui m'a marqué, c'est un disque que m'a donné mon professeur, Louis Thierry, un disque de l'art de la fugue qu'il a fait. Puis c'était assez rare. Bon, à l'époque, il y avait encore des disquaires, mais ils commençaient à disparaître. Puis j'avais pas tellement d'argent pour acheter des disques, donc j'allais de temps en temps à la Fnac acheter des choses. Après, j'étais très marqué par les cantates de Bach d'Herweg. Toute la série des cantates. Les disques de clavecin de Leonhardt, les disques d'orgue. Bien sûr, des versions à n'en plus finir de Chapuis, de... même de Marie-Claire Alain, de choses pour orgue.
Comment ces petits éléments arrivaient dans votre vie d'étudiant en musique? Est-ce que c'était parfois des sortes de coups de foudre ou au contraire des coups de tonnerre qui vous faisaient approcher la musique différemment? Quel rapport ils entretenaient entre votre éducation musicale et vous, ces albums?
Quel rapport ils entretenaient entre mon éducation musicale et moi? Je pense qu'ils m'aidaient à essayer de... Ils me procuraient du plaisir en écoutant de la musique, mais j'avais assez peu de regard critique au départ sur ces versions. Mais pour certains enregistrements, c'était vraiment une référence pour moi. Aussi les enregistrements de la petite bande, Les Brandebourgeois, par Leonhardt. Ça, c'était vraiment... Je me souviens d'un disque que je crois que c'était ma tante qui m'a offert ça, un truc pour Noël, un patch une sorte de florilège de plein de choses classiques. Et il y avait la moitié des choses qui étaient affreuses, mais dedans, j'espère que ma tante ne va pas écouter ça, dedans, il y avait le premier mouvement du 5e Brandebourgeois par La Petite Bande et Pierre Antaille. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Ça, c'était quelque chose que j'écoutais...
En boucle.
En boucle. Le mouvement durait 9 minutes 30 et je l'écoutais sans cesse. Voilà. Je pense aussi au Cantate pour Alto par Andreas Scholl et Herweg de Bach, qui sont sortis dans les années 98-99. Ça, c'est quelque chose que j'écoutais sans cesse aussi. Mais après, je m'en suis un peu séparé. L'appareil est tombé en panne et j'ai jamais acheté d'appareil. Et aujourd'hui, chez moi, j'ai toujours pas d'appareil. Ça peut paraître absurde, mais j'écoute rien. Donc,
c'est... politique, j'allais dire, c'est un choix, c'est ça vous arrange finalement qu'il soit tombé en panne, cet appareil?
Oui, parce que bon, c'était un truc très vieux et de mauvaise qualité, mais j'ai un ordinateur, donc quand j'ai besoin de travailler ou d'écouter exceptionnellement un disque ou faire du montage, pour moi je me sers de mon ordinateur avec un casque, mais ça me manque pas du tout. Aujourd'hui, on est dans un tel monde on est envahi par les sons partout. On rentre dans
un restaurant,
magasin, les gares, ça maintenant les trains, maintenant les
parkings,
les avions. Donc ça me manque pas du tout. Si un jour j'ai envie, je m'achèterai une belle chaîne, mais pour l'instant, je préfère aller au concert parce que j'ai pas tellement le temps d'y aller, donc je préfère me consacrer à ça.
Alors, il y a un nom qu'on a cité 673 fois, enfin vous avez cité depuis le début, Gustave Leonhardt. Je crois que c'est lui qui présidait le jury quand vous avez reçu vos diplômes d'orgue et de clavecin à la Scola Cantorum de Bâle.
De
clavecin, pardon. Donc vous avez dit, je crois, au début de notre entretien que vous l'aviez vu en concert dans un festival quand vous étiez assez jeune, je crois, c'est ça, vous l'aviez...
Oui, je l'ai entendu pour la première fois, j'avais à peu près 10 ans, je pense, au Festival de musique ancienne de Dieppe. Ensuite, il est venu plusieurs fois au Festival d'Arc la Bataille, qui a été fondé en 1998, et qui a maintenant 12 ans. Il est revenu quelques fois. Et dès que je peux, je vais l'entendre. Ça, c'est très important pour moi.
Qu'est-ce qu'une figure comme ça représente pour vous, Gérard ? Le mélomane, l'organiste et claveciniste, évidemment, là, aujourd'hui, il fait un domaine privé, vous êtes invité. Quel rapport montrerait qu'une figure aussi majeure sur un tel instrument, comment les concerts, quand vous les voyez, quand vous allez l'entendre aujourd'hui, comment ça, cette relation a évolué à travers les années?
C'est pour moi un très très grand musicien, un très grand homme cultivé, extrêmement cultivé, qui réussit à chaque fois à découvrir une œuvre ou à faire découvrir une œuvre plutôt, parce que c'est quelqu'un qui joue pas pour lui quand il la joue. Et à chaque fois c'est surprenant de l'entendre, et c'est une grande modestie de sa part, puisque depuis une dizaine d'années il ne joue quasiment plus que, je veux pas dire qu'il joue toujours les mêmes œuvres, ses programmes sont jamais les mêmes, mais en fin de carrière on pourrait attendre de lui qu'il joue encore les variations Goldberg, qu'il joue encore les partitas, qu'il joue encore les suites anglaises, etc. Mais il a la grande modestie de reprendre toujours entre guillemets des petits maîtres allemands, des Louis Couperin, des pièces comme Forqueray qu'il aime beaucoup. Et à chaque fois j'ai eu la chance d'entendre plusieurs fois jouer les mêmes pièces. Et à chaque fois, c'était toujours différent. Mais pas pour être différent, c'était extrêmement vivant. C'est ça qui fait sa force. À chaque fois qu'il joue, il a compris exactement et il fait partager ce que c'est qu'en fait le style de cette musique. Quelque chose d'extrêmement varié, comme on peut voir dans l'architecture italienne, française. Rien n'est toujours pareil, il y a bien sûr une structure, des perspectives, mais rien n'est figé. Et c'est toujours un perpétuel mouvement, et c'est ça qui vient de la danse, qui vient de la voix, et c'est ça vraiment le style baroque. Et il a compris ça, il a aussi compris le style de la fin de la Renaissance, mais avec sa culture, il a absolument tout compris. Et on ne demande pas plus à un musicien, je pense. On demande de présenter la musique clairement, de savoir peut-être improviser dans les styles pour pouvoir se familiariser un peu plus avec les styles. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est de jouer la musique correctement. On ne demande pas plus. Et pour ça, il faut avoir compris. Donc, il y a mille manières. D'ailleurs, quand il joue plusieurs œuvres la même fois, c'est toujours différent. Donc, c'est... Et avec une...
C'est aussi ce qui est fascinant dans cette période aussi, peut-être.
Oui, oui, oui. Et c'est très... Liberté, ce qui prouve que rien n'est jamais figé.
C'est lui qui dit, je crois, on ne sait pas. Ou,
on ne sait pas.
On ne sait pas, c'est ce qui est...
Au NSP, on ne sait pas. Et c'est très, très, très riche d'avoir cette distance, au fond. Puisque je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui doit maintenant travailler assez peu. Bien sûr, il travaille beaucoup quand il dirige. Mais quand il fait un récital, il garde toujours cette tenue impeccable du début jusqu'à la fin, avec une grande culture et un détachement, et il se met vraiment au service de la musique.
C'est quoi pour vous un interprète ?
Un interprète, le mot est un peu fort en français, mais...
Un passeur, c'est... Comment vous vous définissez, vous ?
Je pense qu'il faut pas traduire, il faut juste présenter. Bien sûr, on utilise le mot interprète, donc...
Présentateur, enfin, c'est vrai que quand on dit présentateur, on va penser à un présentateur de télé ou de radio, mais...
Oui, on va pas speaker, mais on va pas...
Mais est-ce que le mot présentateur, dans son sens originel...
Oui, je pense qu'il faut plutôt vivre l'œuvre et essayer de la présenter, de la comprendre au départ. Essayer de faire en sorte que les gens l'entendent comme elle est écrite, plus ou moins. Donc il y a plusieurs manières, mais Je pense qu'il ne faut pas se mettre en avant, ça c'est très important. On ne doit pas vraiment sentir qui joue, ça n'a aucune importance en fait. Et le plus important, c'est la musique, d'où elle vient. Et ça, d'où elle vient, on peut le savoir en étudiant un peu ce qu'il y a eu avant, en cherchant qui a composé ça, qui était ce monsieur, d'où ça vient. Voilà, c'est important. Mais si on vient d'avant, j'ai toujours l'impression que c'est plus facile. C'est-à-dire que si on part de la musique fin Renaissance et puis qu'on avance vers le baroque, on sent déjà, et puis qu'on comprend même au Moyen-Âge comment composaient les anciens, on comprend des choses et on comprend pourquoi le langage baroque, qui est toujours notre langage d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs Gustave Léonard qui dit ça dans plusieurs rapports et interviews, il a... Le langage d'aujourd'hui, le langage harmonique qu'on peut entendre dans toutes les chansons de variété, chez n'importe qui, est un langage baroque. Bien sûr, on a la musique contemporaine avec des langages différents, mais le langage de tout le monde, de Monsieur Tout le Monde, de Monsieur Tout le Monde qui fait du piano et qui fait trois accords, c'est le langage baroque. On n'a toujours pas changé. Et c'est extrêmement important. Donc de voir comment ce langage a un petit peu évolué, bien sûr, avec le jazz, etc. Mais finalement, c'est très important pour moi, je pense, pour un interprète d'essayer de s'imaginer d'où viennent ces choses. Et pour un musicien baroque, d'essayer de se mettre un peu avant, dans la peau de quelqu'un un peu avant. C'est pour ça, à mon avis, que les modernes, ce que j'appelle les modernes, les musiciens modernes, qui prennent la musique actuellement, sans des fois... peu d'imagination, peu de culture de la danse, des schémas harmoniques, des tensions, des dissonances, souvent passent à côté de choses très importantes, même au XIXe siècle, même dans la musique du XIXe siècle, dans la musique du XXe siècle.
Thank you.
Alors donc depuis 4 ans, vous êtes titulaire du nouvel orgue Aubertin de Saint-Louis-en-Lille, à Paris. Parlez-nous un petit peu des spécificités de cet instrument.
Alors on a énormément de chance d'avoir cet instrument. Cet instrument n'est pas une copie, mais il est inspiré d'un instrument qui aurait pu se trouver en Allemagne du Sud, enfin plutôt en Thuringe ou en Saxe dans les années 1750. Il y a quelques ajouts un peu plus tardifs, comme des flûtes plutôt dans le style de la fin du XVIIIe siècle. C'est un instrument construit par Bernard Aubertin, qui est un grand facteur français en 2004. Et c'est un instrument qui permet de jouer très bien la musique de Bach, la musique d'Allemagne du Nord, puisque dans ces instruments d'Allemagne ou de Saxe, on avait souvent des influences d'Allemagne du Nord, que Bach lui-même a très bien connues. Mais c'est un instrument sur lequel on peut jouer aussi de la musique un peu plus tardive, comme Mendelssohn. Il peut aussi très bien servir la musique contemporaine. C'est un instrument assez polyvalent, mais qui est plus ou moins conçu pour la musique du XVIIIe siècle et la musique de Bach.
Qu'est-ce que cet instrument et ce lieu, l'église qui est avec, j'allais dire, vous apporte, vous a dans à ce moment, enfin quand vous l'avez pris donc en 2005 dans votre carrière, quelle est la spécificité de cette rencontre entre cet instrument, ce lieu et votre vision de la musique à ce moment-là?
Alors ça s'est fait très très vite, mais dès que j'ai été ici, j'étais extrêmement heureux, bien sûr, parce que c'est, disons, l'instrument neuf à Paris qui permet actuellement de jouer le mieux cette musique. On parlait de Bach tout à l'heure. Parce que dans les années 60, on a essayé de recréer des instruments qui sont des instruments comme on a eu, par exemple, à Saint-Thomas d'Aquin ou à Notre-Dame des Blancs-Manteaux, qui sont des instruments très beaux, mais on était toujours en recherche un peu de style. À l'époque, l'Allemagne de l'Est était toujours un peu inaccessible. C'est toujours assez difficile de s'approcher vraiment des timbres là-bas et de faire des copies d'instruments. Pour moi, c'est l'instrument à Paris qui permet de servir mieux la musique de Bach. Et c'est une grande chance pour les organistes à Paris de pouvoir, justement, grâce à cet instrument et à ce lieu superbe avec une acoustique magnifique, de recevoir Gustav Leonhardt, d'organiser cette intégrale Bach avec Francis Jacob, Michel Bouvard, Bernard Faucroul et moi-même cette année, d'avoir monté ces concerts du dimanche midi. Pour moi, c'est une chance de pouvoir faire vivre avec d'autres la musique de Bach et de pouvoir monter des concerts, je trouve qu'il manquait à Paris. C'est-à-dire que souvent, à Paris, il y a des concerts d'orgue du dimanche après-midi, un peu partout, mais c'est un public vraiment d'orgue, un public...
On en revient aux chauves-souris du début, c'est-à-dire vous avez aussi envie, vous voyez un peu comme un rôle, pas une mission, mais de montrer aussi une facette de la richesse, de la modernité peut-être de cette musique,
un public différent. Je pense que c'est important d'essayer de un peu dépoussiérer l'orgue, parce que aujourd'hui, l'orgue est devenu un peu un instrument qui est connoté un peu trop, à mon goût, d'instrument qui sert l'église, la liturgie. Et bien sûr, c'est ça, c'est son rôle, mais il peut avoir un tout autre rôle, un rôle de musique de chambre, un rôle concertant, un rôle d'instrument soliste qui peut très bien servir toute la musique. Et on en connaît aujourd'hui un dixième, un vingtième. Il y a tellement de musique du XVIIe siècle, du XVIe siècle, même du XVIIIe siècle, de gens complètement inconnus, qui vaut le coup d'être connus, et c'est très dommage. Et je pense qu'on peut vraiment intéresser les publics de musique ancienne, qui, les 20 dernières années, se sont intéressés aux opéras baroques, on en fait beaucoup plus, à la musique de chambre baroque, à des choses qui il y a une vingtaine d'années, aurait intéressé personne. Mmh. Aujourd'hui, quand on joue les Vêpes de Monteverdi, dans un théâtre ou dans une église, encore mieux, ou l'Orfeo de Monteverdi, les théâtres sont pleins. Et ce serait formidable d'essayer d'attirer le public à Saint-Louis-en-Lille pour vraiment montrer que l'orgue est un instrument extrêmement vivant et pas une pompe à cantique au fond de l'église qui sert une fois le dimanche. Et je pense que c'est très important. Et quand on entend aussi les jeunes organistes d'aujourd'hui, je veux absolument pas parler de moi, hein, je veux parler de toute l'école des jeunes organistes, et il y en a beaucoup. Les choses changent, puisque les gens ont aujourd'hui accès à autre chose, les gens peuvent faire du clavecin, les gens peuvent faire de la musique de chambre, et sortent un peu de cette tour d'ivoire de l'organiste qui est seul à sa tribune et qui joue pour lui la musique, et qui prend pas du tout en compte l'acoustique d'un lieu, et qui fait pas en sorte que les grandes fugues de Bach soient claires. Je pense qu'il faut que cette musique danse, et qu'elle soit vivante. Tout comme doit l'être la musique de clavecin, et pas du tout réservée à un public élitiste. D'ailleurs, les concerts qu'on fait le dimanche sont des concerts entrée libre, et c'est très important que ça reste comme ça.
Est-ce que l'autre nom qu'on a beaucoup cité, c'est celui de Bach, est-ce que la richesse de la musique de Bach, découvrir toujours des choses, même dans des partitions qu'on croyait plus ou moins maîtrisées, parfois peut se retourner contre le musicien et devenir... Enfin, trop de liberté et tout. Un peu. Est-ce que si un peu, on a l'impression que c'est la figure majeure qui parfois peut empêcher d'aller ailleurs. Comme vous disiez tout à l'heure, finalement, je me rends compte qu'il faut et que, enfin, c'est pas il faut, on m'oblige, mais j'ai besoin finalement de faire d'autres choses que de faire de la musique, aller voir des expos, lire des livres, etc. Ça. Est-ce que Bach parfois peut avoir un côté justement oppressant, oppressant peut-être le moins un peu fort, mais étouffant, je sais pas.
Non, pas étouffant, c'est une musique extrêmement riche, mais qui vient en fait de choses extrêmement simples. C'est pas qu'il est un compositeur qui a su synthétiser, rassembler les idées, même très anciennes, de danse, quand il compose des danses dans les partitas, des formes, des fugues, des canons. Si j'ose dire, il n'a rien inventé. Il a juste poussé l'art de la fugue. D'ailleurs, il a écrit l'art de la fugue, mais l'art du choral, ou de la paraphrase de choral, ou du prélude de choral, ou de la sonate en trio, pour parler de ça, à, je dirais pas à une apogée, mais on peut dire une apogée, à un point extrêmement élevé. Mais il ne faut pas penser, je pense, que la musique de Bach est quelque chose de sacré, comme certains organistes pensent qu'il faut jouer très lentement certains passages. Bon, ça dépend. Je pense qu'il faut être très libre, il ne faut pas suivre de dogme, et les choses peuvent changer à partir du moment où on respecte le texte, la musique, et on ne fait pas n'importe quoi. C'est un peu comme toute œuvre d'art. Il faut respecter l'œuvre, et en même temps, voilà, rien n'est figé.
Alors, je vais pas vous demander ce que vous écoutez comme musique chez vous, puisque vous avez rien pour l'écouter. Mais quand vous allez au concert, etc., est-ce que des musiques autres que les musiques anciennes sont nécessaires pour vous, vous attirent? Est-ce que vous avez des phases en tant que, genre, juste simple mélomane ou auditeur? Comment vous les autres musiques, qu'est-ce que vous écoutez éventuellement?
J'aime beaucoup Schubert. Ça, c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup les chansons de la Renaissance aussi. J'ai peu l'occasion d'aller au concert, mais j'aime beaucoup, de temps en temps, aller à un concert. Je sais pas trop où je vais. Et puis, de se laisser séduire par quelque chose. La musique de Mendelssohn aussi. J'aime bien la musique, j'aime bien, je sais pas comment dire ça, mais je ne suis pas du tout rebuté à l'idée d'écouter de la musique contemporaine, mais je trouve que je n'ai pas les clés nécessaires à la compréhension de la musique contemporaine. Et pour avoir les clés nécessaires à cette compréhension, il faut un peu développer une culture autre. Et pour moi, c'est assez difficile. Donc, je réserve ça à plus tard, je pense.
Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est difficile? C'est-à-dire que votre vie musicale, votre vie tout court actuellement est tellement dense que ça demanderait un investissement personnel trop important pour découvrir cet autre pan de la musique?
Oui, je pense qu'il faut un peu écouter... Bon, bien sûr, on peut être ému par quelque chose sans connaître comment ça a été composé et sans savoir l'art de composer cette œuvre. Mais pour moi, c'est important de comprendre en profondeur et c'est assez difficile pour moi d'aller écouter un opéra contemporain où je vais pas avoir assez de clés pour comprendre toutes les références, à quoi on fait allusion dans tel passage. Et le langage de tout le monde aujourd'hui est le langage baroque, un peu extrapolé, mais donc c'est très difficile pour moi de me mettre dans un autre moule et d'écouter d'autres langages.
C'est la même chose pour des musiques comme le jazz, par exemple?
Non, parce que c'est improvisé, donc c'est différent. Et là, le jazz, même si s'il y a des dissonances en plus, le langage est un peu n'est pas baroque, mais c'est j'irais pas, c'est plus facile à comprendre. Mais comme c'est de la musique improvisée, on peut beaucoup plus être pris par la variété de la chose.
Vous êtes pris parfois par la variété de cette chose, justement, le jazz, ou c'est un...
Oui, j'aime beaucoup. J'allais à un moment écouter du jazz, mais j'ai plus le temps, malheureusement. Mais j'aimerais beaucoup.
Il y avait des jazzman, des styles qui vous intéressaient plus que d'autres, qui vous touchaient plus que d'autres?
Non, si, mais j'y connais tellement peu que j'ose pas vous en parler.
Pour cet album donc, que vous venez de publier chez Alpha, comment vous concevez qu'est-ce que représente un album pour vous, un disque? Est-ce que c'est un instant, une photo, un instantané de vous à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose de construit? En même temps, c'est quelque chose qu'on grave, entre guillemets, dans la cire, même si c'est plus de la cire, qui reste, on va dire, une fois qu'on n'est plus là. Quelle valeur vous donnez au disque?
Alors, c'est un produit qui correspond à un moment, mais pas forcément, puisque c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, dans mon cas, je pense qu'il est nécessaire de vraiment faire le disque après l'enregistrement. C'est-à-dire que, suivant les passages qu'on a enregistrés, pour moi, le disque naît uniquement après un premier montage. Ça, c'est le cas chez tout le monde, puisqu'aujourd'hui, quasiment plus personne n'enregistre en une prise. Gustave Léonard fait ça, mais quelques organistes font ça, quelques violonistes font ça. Mais c'est très important de comprendre qu'un disque, c'est le produit d'un montage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire le plan de montage moi-même.
Est-ce que, au départ, la genèse du projet, vous avez vraiment déjà tout en tête? Comment ça se passe? Ou est-ce que vous préférez laisser aussi côté un peu de liberté, voir comment tout se passe avant de... Ou est-ce que tout est déjà presque figé dans votre tête?
Pas tout, non, parce que au micro il y a des choses qui sonnent différemment, il faut jouer plus vite, plus lent, surtout à l'orgue, ça dépend beaucoup de l'espace, donc il faut laisser une part un peu de surprise à tout ça. Il y a des choses réussies, des choses un peu moins réussies, dont on est un peu moins content, mais il faut tâcher de faire que l'ensemble soit... Faut faire en sorte que l'ensemble du disque soit réussi. Et ça, on ne peut pas vraiment le savoir avant le premier ou le deuxième montage. C'est-à-dire, oui, on a du matériel, on a des choses, on contrôle, mais un disque peut être totalement raté avec un bon enregistrement et un mauvais montage. Ça, tout le monde sait ça. Mais...
Et le choix de ces sonates?
Le choix de ces sonates, c'est que depuis très longtemps, j'aime jouer ces sonates, c'est de la musique merveilleuse. Pour tout organiste, d'ailleurs, c'est extrêmement important d'avoir
ça. C'est une richesse en plus.
Au répertoire, de pouvoir jouer ça en musique de chambre, pourquoi pas, en les transposant avec flûte, violon. Et c'est aussi ces trios qui sont joués par une seule personne. Il y a les parties de pédalier notamment qui sont assez difficiles. La mise en place des trois voix, de la polyphonie, du trio et de l'articulation de chaque voix est assez importante. Pour moi, c'était important de pas d'enregistrer ça à premier abord, mais j'ai joué beaucoup ces sonates en concert, et c'était important d'essayer de donner une version qui ressemble un peu à une version de chambre, même si c'est une version à l'orgue. C'est-à-dire qu'on a des sonorités à Saint-Louis à disposition, sur l'orgue de Saint-Louis-en-l'Île, qui permettent un peu d'imiter un hautbois, tel instrument. Et sur les six sonates, on arrive à quelque chose d'assez varié. Et c'est important de ne pas jouer ces sonates à l'orgue. C'est important d'imiter vraiment un trio instrumental avec la basse continue. Et c'est ça qu'on a cherché à faire, notamment avec le preneur de son. C'est d'avoir un peu un ensemble de musique de chambre qu'on peut sentir aussi dans l'église, mais c'est complètement différent. Et à l'enregistrement, c'est ce qui est aussi très difficile. Et je remercie beaucoup Hugues Deschaux parce qu'il a fait un merveilleux travail de prise de son, qui était très difficile, je pense, de trouver cette balance entre les trois voix dans un lieu qui est toujours très grand, c'est aléatoire. Voilà.
En termes de projet, c'est quoi vos envies musicales dans alors on a parlé de ce cycle, donc Bach jusqu'à l'été prochain, je crois, à l'église Saint-Louis-en-Lille. Est-ce qu'il y a d'autres choses déjà que vous avez en tête au disque ou en concert?
Au disque, il y a les six partitas, donc qui sont le premier volet de la Klavierübung 1. C'est la première œuvre éditée de Bach à l'époque. Donc ça a été enregistré et ça sortira l'année prochaine au printemps, en mars, chez Alpha toujours. Et ensuite, il y a un projet d'assez longue durée, la Klavierübung 2, donc le concerto italien, l'ouverture à la française, toujours pour clavecin. Ensuite, la Klavierübung 3, qui est un grand recueil pour orgue de Bach, qui sera enregistré là en Allemagne sur un superbe orgue historique. Et ensuite, les variations Goldberg. Donc ça, c'est un projet sur 2 ans, à long terme, donc qu'on a avec le label Alpha. Et c'est très important pour moi de réaliser ce projet, puisque le projet est à la fois un projet d'orgue et de clavecin. Et ça montre très bien qu'à l'époque, les musiciens jouaient les deux, et que Bach était à la fois organiste et claveciniste, qui jouait du clavicorde, du violon. Et jamais un tel projet discographique a été réalisé en un tout. C'est-à-dire que souvent on peut trouver des enregistrements de la Klavierübung 3 par un organiste ou les partitas par un claveciniste. Mais c'est important pour moi, en tant qu'organiste et claveciniste, d'essayer de réaliser ce projet longue durée avec la même personne. Voilà, je pense que c'est... Ça m'intéresse beaucoup de voir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les quatre volets de cette Klavierübung. Voilà.
On vous souhaite bonne chance pour ce projet. Merci Benjamin Allard.
Merci à vous.
Thank you.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.